France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés, jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, journaliste, éditorialiste, directrice de la revue L'Audace, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine, et en particulier aujourd'hui, évidemment, sur l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Et puis pour le débat, nous recevrons une professeure émérite d'économie à l'Université Sorbonne Paris Nord, présidente du Cercle des économistes, très grande spécialiste de l'économie de la culture qui sort Négligence, une économie de l'inattention aux éditions Kalman-Lévy, un livre dont le titre résonne douloureusement avec le casse du Louvre cette semaine. Au-delà, les négligences sont celles qui nous font privilégier le court terme et non le bien-être à long terme. Combien ces négligences nous coûtent-elles? Nous poserons la question à notre invité du jour, l'économiste Françoise Benamou, mais pour l'instant place au duel.
Le grand face à face, Thomas Negaroff sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
Allez, on commence avec une info qui en a écrasé beaucoup d'autres cette semaine. Des dizaines de journalistes qui suivent une voiture avec Nicolas Sarkozy à l'intérieur. Non, nous ne sommes pas le 6 mai 2007, lorsque la meute médiatique suivait le nouveau président de la République, mais le 21 octobre 2025 pour l'accompagner à la prison de la santé à Paris. Juste avant d'entrer en cellule, l'avocat de Nicolas Sarkozy, maître Christophe Ingrin, a pris la parole.
La cour d'appel a 2 mois pour statuer sur une demande de mise en liberté et le délai moyen à la cour d'appel de Paris, c'est 1 mois. Donc, en tout état de cause, même si rien ne justifie cette détention, il y est pour 1 mois. C'est un moment qui est très dur, une grave injustice. Puisque je rappelle que, en fait et en droit, Nicolas Sarkozy est innocent au moment où on parle. Et en dépit de ça, il est incarcéré.
Gilles, on ne va pas refaire le débat sur, enfin, moi que vous vouliez le faire, hein, sur la présomption d'innocence, sur un président en prison. Je pense qu'avec Natacha, on a aussi envie de revenir sur la question médiatique de ce qui s'est passé cette semaine. Quelle est la lecture que vous faites, vous, de cet événement?
Alors, je veux précisément ne pas revenir sur l'affaire, le procès, le jugement dont on a déjà parlé, mais sur ce qui s'est passé cette semaine. Il y a des événements vis-à-vis desquels on a parfois des sentiments mêlés.
Oui.
Et là, j'ai un sentiment unique, qui est un sentiment de malaise. De malaise, d'abord, devant le traitement médiatique, c'est-à-dire je comprends la nécessité de l'information, mais le détail sur les étapes du parcours du détenu, les formulaires qu'il doit remplir, les fouilles qu'il doit subir, les détails sur ses conditions de détention, l'acquisition d'une balayette ou la taille de son écharpe, sans compter les plans en 3D de sa cellule. Je trouve que on a basculé vers un voyeurisme malsain. Ça, c'était le premier malaise. Deuxième malaise, il est devant la défense de Nicolas Sarkozy. Non pas sa stratégie de défense judiciaire, il a interjeté appel, ça c'est son choix, il peut clamer son innocence et contester le jugement. Il peut même attaquer le juge et la justice, ce qu'il fait, ça c'est son choix, je ne sais pas si ce sera très, très opportun et très efficace, mais on le verra. Mais devant la stratégie de communication, la mise en scène de la sortie, vous l'avez évoqué, la mise en scène de ses lectures, Jésus...
Ouais.
Il y a quand même un petit côté ridicule, et le parallèle avec l'affaire Dreyfus, il y a un vrai côté obscène.
En passant par Monte Cristo, qui lui a passé 14 ans en prison.
Et puis le dernier malaise, il est devant les réactions institutionnelles. Le fait qu'Emmanuel Macron le reçoive en expliquant que c'est normal, donc je ne vois pas par rapport à quelle norme il est normal de recevoir Nicolas Sarkozy. Je dois dire en passant que chaque intervention cette semaine du président de la République sur la scène intérieure m'a paru très désaxé. C'est vrai de celle-ci, mais c'est vrai aussi de la réception d'une partie de Renaissance où il se comportait comme un chef de clan. C'est vrai de ses déclarations sur la suspension des retraites dans lesquelles il venait contrarier l'action de son propre Premier ministre. Et puis, et je termine par là, malaise devant l'annonce par le garde des Sceaux qu'il allait visiter Nicolas Sarkozy. Là, je pense qu'il y a, c'est une erreur et même une faute. Soit il le fait en tant qu'ami, et je pense que c'est une erreur de dissocier l'homme de la fonction, soit il le fait en tant que garde des Sceaux, en tant que ministre, et ça c'est ne pas mesurer, ou pire encore, très bien mesurer, que ça ne peut être perçu que comme un geste pour Nicolas Sarkozy contre ses juges, donc malaise, malaise et malaise.
Gérald Darmanin a aussi dit qu'il avait visité en son temps son père en prison. Peut-être qu'il voit aussi dans Nicolas Sarkozy une figure paternelle, au moins politiquement. Natacha, ce malaise, est-ce que vous le partagez ? Malaise médiatique, notamment, malaise aussi de notre regard sur cette histoire. Et malaise aussi peut-être de la position de l'exécutif.
Je ne vais pas m'apesantir parce qu'en effet, il n'y aura pas de grande différence entre mon propos et celui de Gilles. J'ai ressenti rigoureusement le même malaise. J'ai observé à quel point cette séquence permettait à Nicolas Sarkozy de faire de la communication. Ce qui, là aussi, n'est pas illégitime que quelqu'un fasse, qu'un politique communique, ne me semble pas absurde, mais je ne vois pas pourquoi il était nécessaire de lui donner l'occasion de cette communication qu'en effet, comme Gilles, j'ai trouvé véritablement, on va dire, grossière, oui. Simplement, premier point, j'ai eu l'impression, en voyant tout cela, en effet d'un cirque médiatique totalement obscène au sens originel de ce terme, mais surtout je me suis posé la question, en fait, du message qui était envoyé. C'est-à-dire que je me suis dit que les juges, en décidant de l'exécution provisoire, voulaient cette séquence. C'est-à-dire voulaient que Nicolas Sarkozy aille en prison, voulaient être sûrs de cela. Est-ce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, à savoir ce message qui consisterait à dire aux citoyens, il n'y a plus de règle selon laquelle, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Cette fois-ci, même un président, un ancien président de la République, s'il est considéré comme coupable, doit aller en prison. À ceci près que, vous l'avez dit en introduction, justement, la question est celle de la présomption d'innocence. Bref, donc ont-ils obtenu ce message qui consiste à dire aux citoyens « il n'y a pas de privilège » ou ont-ils obtenu la possibilité justement de mettre en scène tous les privilèges problématiques puisque ce qu'a décrit Gilles relève un peu de cela.
Gilles, un mot ?
Oui, un mot. Est-ce que les juges ont, je rebondis sur ce que dit Natacha, est-ce que les juges ont obtenu ce message ? On va voir ce qu'il va sans doute y avoir des enquêtes d'opinion après, ce que les enquêtes d'opinion montraient après le procès, après le jugement, c'était que il n'y avait pas du tout ce sentiment d'injustice que proclamait Nicolas Sarkozy. Et dans l'enquête sur les fractures françaises que l'on va évoquer un peu plus tard, on voit que la confiance dans la justice est restée tout à fait stable par rapport à l'année dernière. Et donc, il n'y a pas eu, en tout cas, il n'y a pas eu d'impact négatif de cette affaire. Et puis, dernier mot, j'évoquais ces différents malaises. Je crains que le malaise ne soit pas fini, puisque après l'emprisonnement de Nicolas Sarkozy, cette semaine, on va avoir très vite, dans quelques semaines, la libération de Nicolas Sarkozy, avec à peu près les mêmes images, puis le livre de Nicolas Sarkozy racontant notamment ces semaines en prison, jusqu'à ce que la justice rende des décisions définitives, et peut-être même, et c'est ça qui m'a frappé, après que la justice ait rendu des décisions définitives, lorsque Nicolas Sarkozy dit que sa vie est un roman, il continue d'écrire le roman de sa vie. Le problème, c'est qu'il y a parfois de la fiction dans le roman.
Et pour revenir sur la question de... Il n'y a pas encore d'enquête d'opinion, mais ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais Fabrice Arfi était invité cette semaine de C'est ce soir sur France 5. Il a évoqué la question du piège communicationnel. Peut-être vous l'avez vu, cette vidéo. Elle a été partagée plus de 6 millions de fois. C'est exceptionnellement élevé. Ça raconte aussi peut-être un sentiment qui est le vôtre et qui est peut-être partagé par beaucoup de nos concitoyens.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Lorsque ce gouvernement déjà oublié sera censuré, probablement dans quelques semaines ou dans quelques mois, eh bien vous serez à nouveau appelé aux urnes. Vous aurez le pouvoir de faire de Jordan votre premier ministre. Car la France n'est pas ingouvernable. Ce sont les partis du système qui sont incapables de la gouverner. La France n'est pas bloquée. Les seules chaînes qui la retiennent aujourd'hui, ce sont celles de vieux partis fatigués qui cherchent dans le passé les vieilles recettes qui n'ont jamais donné et ne donneront jamais à notre grande nation l'avenir qu'elle mérite.
Marine Le Pen, lors d'un meeting du Rassemblement National, c'était à Bordeaux le 14 septembre dernier. Elle semble avoir anticipé, Gilles, certaines conclusions de l'enquête annuelle Fracture française. La nouvelle vague de cette enquête a été menée par Ipsos pour le Cevipof, Le Monde, la Fondation Jean Jaurès, la vôtre, et l'Institut Montaigne. Elle dresse le portrait d'une société française, je cite, en état de nervosité démocratique. Mais Gilles, dans ce qu'on a entendu de la bouche de Marine Le Pen, il y a, je crois, deux enseignements de cette enquête. Un, la puissance du RN, et deux, la défiance envers la politique et les partis politiques, pour être plus précis.
Alors, cette enquête est vraiment l'enquête la plus panoramique. Oui. Sur l'état de l'opinion. Donc, il y a beaucoup, elle est très riche, il y a beaucoup de choses. Si on se concentre, et j'ai fait dans le Monde mon papier sur ce sujet-là, qui se terminait par la phrase, le Rassemblement National, il faut regarder la réalité telle qu'elle est, le Rassemblement National est aujourd'hui le favori de la prochaine élection présidentielle. Et je voudrais peut-être expliciter et peut-être prolonger ça. Vous avez dit, le Rassemblement, c'est la puissance du Rassemblement National, il se renforce beaucoup. Je n'en donne qu'une illustration, qui est celle de ce qu'on appelle la proximité partisane. C'est-à-dire non pas les adhérents, non pas les électeurs, mais les Français qui, à la question de savoir quel est le parti dont vous êtes le plus proche, répondent le Rassemblement National. Donc cette espèce de noyau dur de chaque formation politique. Ce qui est intéressant, c'est de comparer les résultats d'aujourd'hui à ceux d'il y a 5 ans, c'est-à-dire à la même distance de la prochaine élection présidentielle. Aujourd'hui, 22% des Français disent « le Rassemblement National est le parti dont je suis le plus proche ». Le deuxième parti, qui est le Parti Socialiste, est à 8%. Mmh. Tous les autres partis sont entre 5, 6, 8, parfois même 1, 2, 3 pour Horizon ou pour le Modem. Et quand on compare à la situation d'il y a 5 ans, le Rassemblement National était à 14, à proximité des écologistes, de La République En Marche et des Républicains. Et donc en l'espace de 5 ans, progression de 8 points pour le Rassemblement National, baisse de 7 points pour tous les autres. Quand on regarde la proximité partisane, il y a un géant, le Rassemblement National, et tous les autres qui sont très loin derrière. Ça, c'est le premier point. Le Rassemblement National se renforce, et il se renforce beaucoup. Mais il y a un deuxième point qui n'est pas inintéressant, c'est que le Rassemblement National se dilue au moins un peu. C'est-à-dire, quand on regarde ce que pensent ses électeurs, il y a beaucoup de sujets sur lesquels ils sont très alignés, très unis, dans des proportions qu'on voit rarement dans les autres partis, 90-95% ouais. qui pensent la même chose sur les questions d'immigration, qui pensent la même chose sur l'état du pays, qui éprouvent la même nostalgie par rapport au passé. Mais ils commencent à être divisés et à être de plus en plus divisés sur les questions économiques et sociales. Sur le rôle de l'État, on a 2/3, 1/3. Sur est-ce que la redistribution est nécessaire ? Ils sont partagés pratiquement à 50-50. Sur est-ce qu'il y a un ruissellement de l'économie, plus les riches s'enrichissent, plus le pays s'enrichit, 50-50 aussi. Et ça, si on met ça en écho avec les débats budgétaires de cette semaine, on voit que l'espèce d'ambiguïté, de tiraillement interne que l'on sent au Rassemblement National, c'est aussi les tiraillements de ses électeurs. Vous connaissez la formule célèbre du général Giap, qui était le grand général vietnamien. Il disait, si l'ennemi se concentre, il perd du terrain. Si l'ennemi se disperse, il perd sa force. Là, le Rassemblement National se disperse, c'est-à-dire qu'il progresse, mais il perd de son unité.
Ce qui est un peu normal. Plus on croit, moins on est unis. Après, ça raconte aussi l'histoire de ce parti et de son rapport à l'économie. Il y a toujours eu des tentations et des tendances à l'intérieur. Enfin, le Front National de Jean-Marie Le Pen était très libéral. Sous Philippot, le Rassemblement National de Marine Le Pen s'était recentré, refermé. Et peut-être qu'il y a encore des traces de ça.
Ah, oui, il y a eu des moments.
Ouais.
Il y a eu un moment très libéral.
Et on est aujourd'hui
dans cette hésitation.
Ouais. Natacha, ces fractures françaises, est-ce que vous voulez revenir sur la question précisément du Rassemblement National ?
Alors oui, Petite parenthèse sur les fractures. Il y a des passages très intéressants dans cette étude, notamment sur les questions intergénérationnelles, notamment sur le fait que quand on parle de colère, on s'aperçoit que les jeunes femmes sont davantage en colère que les jeunes hommes, que le reste de la population. Bref, il y a des tas de choses à aller explorer sur ce que ça nous raconte des rapports entre les individus.
Et 90% des sondés considèrent que le pays est en déclin.
Justement, j'allais y venir, c'était ça mon point. Gilles a prononcé le mot de nostalgie. C'est vrai, 90% des Français donc estiment le pays en déclin contre 75% en 2022. C'est extrêmement frappant. Et en effet, alors ils sont 80% qui pensent que la démocratie dysfonctionne, mais cette question de la nostalgie du déclin me semble significative de tout ce que vient de dire Gilles. Pourquoi ? Parce que cette thématique du déclin, le mot déclin, est un mot interdit depuis des années. La nostalgie est quelque chose de mis à l'index depuis des années. Ça m'a beaucoup frappée. Vous savez, cette obsession de dire que exprimer même l'idée que c'était mieux avant, faites-vous un ignoble réactionnaire. 75% des Français disent qu'ils trouvent que c'était mieux avant. 71% disent qu'ils s'inspirent des valeurs du passé. Eh bien, je pense que le fait d'avoir petit à petit voulu faire taire ce sentiment qu'avaient les Français que leur pays allait moins bien et qu'il y avait des choses qui étaient préférables dans le passé. Évidemment que l'idée « c'était mieux avant » en bloc est absurde, mais qu'il y ait des choses préférables dans le passé est vrai. Et avoir voulu interdire ça, à mon avis, a été un moteur fantastique pour le Rassemblement national.
Ça veut dire quoi, avoir voulu faire interdire ça ? Qui a voulu
interdire ça, par exemple, l'apparition d'un terme comme décliniste. Je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que dans le débat public, quand vous êtes critique des politiques qui sont menées actuellement, vous vous faites assez vite accuser de déclinisme. C'est un terme employé, on va dire, par le bloc central. Ça veut dire quoi ? Évidemment que c'est une façon, c'est un artifice pour éviter les critiques contre la politique qui est menée. Mais ça veut dire que diagnostiquer dans certains domaines le fait qu'il y a un déclin et que ce déclin est inquiétant, fait de vous soit un réactionnaire, soit même un ennemi de la grandeur de la France. C'est une absurdité parce que de fait, dans des domaines comme par exemple celui que je connais bien, l'école, la fragilité, le déclin sont évidents.
Le ministre l'a dit cette semaine.
Mais il l'a dit cette semaine. Sauf que quand il y a 20 ans, certains commençaient à alerter, eh bien là, ils les étaient traités de réactionnaires. Donc vous voyez, et je pense que le fait de n'avoir pas décrit le réel, on a laissé le monopole à un Rassemblement national dont Gilles a très bien souligné qu'il est en fait extrêmement attrape-tout et que sur les questions économiques, on voit très bien à quel point il va opérer un recentrage pour essayer d'aller vers cette fameuse union des droites. Mais il se sera appuyé sur le fait qu'il a pu, pendant un long moment, apparaître en résonance avec le sentiment des Français. Et je pense que ça, c'est une stupidité.
Gilles, ce sentiment de déclin des Français, même si une majorité considère qu'il n'est pas irréversible, comment vous l'analysez-vous ? Est-ce que sur la longue durée, on voit effectivement que ce sentiment est en train de prendre de plus en plus au sein de nos concitoyens ?
La rupture, elle se fait non pas par rapport à 2022, mais par rapport à 2017. C'est-à-dire que 2017 est un moment où, pour la première fois depuis longtemps, les Français ont le sentiment que quelque chose est possible. Et où ce sentiment, l'idée que la France n'est pas en déclin, il y a près d'un tiers des Français qui partage cette idée-là. Et la rupture, elle est entre aujourd'hui et progressivement ce point haut de 2017. Après, quand on dit la France est en déclin, on essaye justement de creuser un peu en demandant la France est en déclin et c'est irréversible ou ce n'est pas irréversible. Et évidemment, c'est la même chose, disons la seule nouvelle un peu moins mauvaise, c'est que le pourcentage de Français qui disent c'est irréversible est à peu près stable. Il est stable, mais à un niveau élevé. Entre le déclin et le déclinisme, c'est une forme d'idéologie qui se complaît dans l'inéluctable déclin de la France et qui est une vieille idéologie de l'extrême droite depuis des décennies et des décennies.
Je suis entièrement d'accord.
La Révolution française.
Depuis la Révolution française.
Je suis entièrement d'accord, mais il faut justement bien distinguer. C'est-à-dire qu'en effet, il y a une certaine jouissance à dire l'effondrement qu'on trouve dans certains partis et dans certains, en général, à l'extrême droite de l'échiquier. En revanche, avoir joué avec l'idée du réel a donné de la force à cela.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Allez, on part à l'international pour le troisième thème du duel. Il est question de guerre commerciale avec la Chine qui dispose d'un atout dans son jeu, un atout majeur, les terres rares, ces matériaux essentiels pour le numérique, l'automobile, l'énergie ou l'armement. Le Parti communiste chinois a annoncé qu'à compter du 1er décembre prochain, les fabricants d'armes européens et américains n'auraient plus le droit d'acheter des terres rares. Chinoise, Patrice Geoffron, spécialiste de l'économie industrielle, y voit un nouvel épisode du grand désordre commercial.
Il y a une décision d'extraterritorialité qui suppose de demander une autorisation à la Chine, non pas seulement évidemment pour importer, ça c'est contractuel, mais également en fonction de l'usage qui peut être fait, notamment de la réexportation de produits qui contiendraient des terres rares. C'est le type de mesure qu'utilisent également les Américains dans d'autres domaines, donc il y a une espèce d'effet boomerang là qui est pas inintéressant, et puis il faut comprendre tout ça s'inscrit évidemment dans le grand bazar qui a été ouvert par Donald Trump il y a quelques mois maintenant sur le fait de mettre, passez-moi l'expression, cul par-dessus tête, le commerce mondial, et donc c'est un des effets dominos de cette guerre commerciale.
Cul par-dessus tête, Natacha. Et nous, on a un peu le cul entre deux chaises, si je puis prolonger cette métaphore, entre un chantage américain et chinois. Et nous, les Européens, on a l'impression d'être un peu entre les deux.
Mais comme d'habitude, c'est bien le problème.
Je savais que ça vous plairait.
Mais oui, alors il faut peut-être rappeler pour nos auditeurs ce qu'on appelle terres rares et minerais rares. Parce qu'en fait, ils ne sont pas si rares que ça. Non. C'est simplement que l'extraction coûte cher. Alors, dans ce qu'on appelle terres rares, il y a des choses scandium, yttrium. Vous allez regarder le tableau de Mendeleïev et vous voyez tout cela. La Chine a 40% des réserves, mais 69% de la production, justement, parce que, contrairement à d'autres zones du monde, elle a justement anticipé cette extraction. 98% de la consommation européenne de terres et minerais rares vient de Chine. C'est bien ça le problème. Et en effet, le point essentiel, c'est que les États-Unis ont mis en place depuis des décennies des goulots d'étranglement dans le système de communication, dans le système financier, pour essayer petit à petit d'imposer une forme de domination qui consistait à tenir les points essentiels du commerce mondial et de la finance mondiale. Face à cela, donc, la Chine est en train de s'organiser. Donc, il y a déjà plusieurs années que les États-Unis ont mis en place des restrictions sur les exportations de puces pour éviter le rattrapage technologique par la Chine. Eh bien, nous avons la réponse. Parce que dans les puces, il y a des terres et des minerais rares. Mais cette question, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on la découvre maintenant. Or, la possession de ces terres et minerais rares est un sujet depuis déjà très longtemps. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu pendant des années des massacres de masse en République démocratique du Congo, que certains qualifient de crimes contre l'humanité, des horreurs absolues. Ce n'est peut-être pas un hasard, dans cette région des Grands Lacs, il y a des mines de coltan dont on extrait le tantale, qui est absolument essentiel pour les condensateurs, pour les transistors des smartphones et aussi pour l'aéronautique. Et les milices qui perpétraient ces massacres sont des milices proches de Paul Kagame, le dictateur du Rwanda. Or, Paul Kagame a été soutenu par les États-Unis pendant des années, malgré ces massacres de masse. Et le Rwanda, curieusement, est deuxième exportateur mondial de coltan et de tantale, alors même que les mines sont pour la plupart en République démocratique du Congo. Eh bien, il se trouve que Donald Trump, au moment où enfin on commençait à s'émouvoir de ces massacres, a décidé, et il s'en vante, de mettre fin à cette guerre. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a signé directement un contrat sur les terres rares avec la République démocratique du Congo. Vous voyez que, en fait, ça détermine la géopolitique mondiale depuis longtemps. C'est-à-dire que nous sommes lancés dans une course aux ressources et aux matières premières pour le développement technologique. Et nous avons donc, comme je le dis assez souvent, l'impérialisme américain installé qui met en place ses goulots d'étranglement et l'impérialisme chinois montant qui essaye de jouer avec ses armes. C'est profondément dangereux.
Et on peut prolonger hein, l'impérialisme américain autour des terres rares sur la question du Groenland ou plus encore sur la question ukrainienne parce qu'on se souvient de l'accord qui devait avoir lieu entre Zelensky et les Américains, c'était sur les terres rares en particulier. Gilles.
Bon, d'abord, Natacha l'a dit, c'est un faux ami. Oui. Terres rares, parce que c'est pas des terres.
Et c'est pas rare.
En tout cas, ce n'est pas si rare. Ce sont des métaux dont la découverte est ancienne, mais, et c'est ça qui est intéressant, dont l'usage massif est relativement récent, à la fois parce que c'est difficile à extraire et à séparer, et par ailleurs c'est très polluant, mais parce que l'usage est lié à des activités relativement récentes, vous l'avez dit Thomas, c'est le développement du numérique, notamment des smartphones, de l'électrique, des énergies renouvelables, des lampes à LED. On pense souvent qu'il y a une hégémonie de la Chine sur les terres rares, et Natacha l'a dit, les chiffres ne sont pas si clairs, on ne sait pas exactement où sont les terres rares, mais ce qui est sûr c'est que la Chine n'a qu'une partie substantielle des réserves. Alors, les chiffres dépendent, parfois c'est un tiers, parfois 40, parfois 50%. Elle produit aux alentours de 60-70% et elle raffine aux alentours de 80-90%. Donc c'est la capacité, c'est moins le fait de posséder les terres rares que son expertise dans leur traitement qui explique la position de la Chine. Ce qui s'est passé, c'est à la fois une question ancienne. Le débat, en 2012, on a eu à peu près le même débat et le même affrontement entre la Chine et les États-Unis sur les terres rares, mais il y a eu un rebond là qui est un rebond très intéressant puisque on l'entendait dans le son de votre expert, la Chine a renforcé de manière drastique le contrôle sur les exportations de terres rares à quelques jours de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping.
Bien sûr.
Et elle le fait pas seulement sur les exportations des mines chinoises, mais sur les exportations dont le traitement a été réalisé par des terres rares chinoises. C'est l'extraterritorialité qui était évoquée. Et en retour, Donald Trump a évoqué la menace d'une taxe de 100% de droits de douane supplémentaires dès le 1er novembre. Donc on est dans ce moment d'affrontement. Quelles leçons, je crois, on peut en tirer? La première, c'est qu'il y a un nouveau mode de règlement des différends internationaux. En 2012, je disais, il y a eu ce précédent conflit. Eh bien, c'est l'OMC qui a été saisi. C'est-à-dire que c'était le droit et le droit commun qui étaient mobilisés. Aujourd'hui, ce sont les décisions unilatérales, c'est vrai des États-Unis, c'est vrai de la Chine, et à chaque fois avec la tentative d'utiliser l'extraterritorialité, c'est-à-dire d'imposer ses propres règles, y compris à l'étranger. La deuxième chose, c'est un nouvel épisode des rapports de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et l'enjeu des terres rares, vous l'avez évoqué notamment avec l'Ukraine. Et puis peut-être le dernier point, c'est une nouvelle mondialisation. Le secrétaire d'État au Trésor a déclaré que si la Chine est un partenaire peu fiable, le monde devra se découpler. Mais le problème, c'est que les États-Unis sont eux aussi un partenaire peu fiable et que la conséquence de tout ça risque d'être une fragmentation et une plus forte autonomie régionale.
J'en viens à l'invité qui vient de nous rejoindre. On va parler de négligence. Est-ce que nous sommes aussi négligents dans l'usage de nos appareils technologiques en n'imaginant même pas, et j'ai mon téléphone dans la main, qu'il y a des terres rares et à quel point ces terres rares sont emblématiques des relations tendue commercialement, mais aussi, et Natacha l'a expliqué, des scandales écologiques et humains qui permettent de produire cela. Cette question de la négligence, elle est au cœur du débat du grand face-à-face. Place à notre invité.
Le grand face-à-face, le débat.
Bonjour Françoise Benhamou.
Bonjour.
Professeure émérite d'économie à l'Université Sorbonne Paris-Nord, présidente du Cercle des économistes. Vous êtes la grande économiste de la culture. Des générations et des générations d'étudiants ont travaillé sur votre manuel Économie de la culture dans la collection Repères de la découverte. Et vous revenez en librairie avec ce livre publié avec votre collègue Maya Bakache-Beauvallet, Négligence au pluriel, une économie de l'inattention aux éditions Kalman-Lévy. Les négligences dont vous parlez sont les nôtres. Nous allons les creuser ensemble. ensemble et aussi les mesurer, hein, c'est votre travail d'économiste que de le faire. Mais si l'on parle de négligence et d'inattention, comment ne pas penser au cas du Louvre ? Cette semaine, le vol de 8 joyaux de la couronne de France, Laurence Descartes, la présidente directrice du musée depuis 4 ans, a été auditionnée par la commission culture du Sénat pendant près de 3 heures cette semaine.
Aujourd'hui, nous vivons un échec terrible au Louvre. La sécurisation du Louvre, de ses collections, est au cœur de mes priorités. Et j'ai été effaré de la situation de la sûreté et de la sécurité du Louvre à mon arrivée. Le système de sécurité tel qu'il est en place aujourd'hui a parfaitement fonctionné. Ce qui se pose, c'est la question de l'adaptation de ce système de sécurité à un nouveau type d'attaque qui n'avait pas été envisagé.
Françoise Benhamou, vous avez été membre du conseil d'administration du Louvre. Quand on a été dans la machine du Louvre, est-ce que c'est la principale angoisse, ça, qu'il y ait un vol ?
Bien entendu, c'est une angoisse. Alors, en même temps, on n'y croit pas. On n'y croit pas tout à fait. Et on a beaucoup de priorités. On n'en a pas une seule, malheureusement. Et donc, c'est compliqué, hein, la présidence du Louvre. Et j'écoute là Laurence Descartes. Je suis frappée quand même par... elle est très émue, là.
Hein. Oui.
J'ai écouté son audition, les 3 heures d'audition, et c'était tout à fait passionnant. Et moi, ce qui m'a posé problème, là, dans l'extrait, vous avez... proposer, c'est lorsqu'elle dit ça a fonctionné, mais c'était pas adapté.
Oui.
Quelque chose qui fonctionne, mais qui est pas adapté, c'est comme si ça n'avait pas fonctionné. Et donc là, il y a un vrai sujet sur la sécurité. Il y a eu un rapport qui avait été fait en 2019, je crois. Il y a aujourd'hui un rapport de la Cour des comptes qui n'est pas encore sorti, mais on a quelques extraits qu'on peut lire ci et là. Et on voit bien que dans les priorités du Louvre, sans doute, la sécurité a été un petit peu sous-estimée.
Est-ce que le mot négligence, qui est le titre aussi de votre livre, vous semble adapté à la situation de la semaine au Louvre ?
Alors oui et non, parce qu'il faut faire attention, là aussi, 9 millions de visiteurs, hein, c'est considérable, hein, ça doit être géré, c'est compliqué. Laurence Descartes avait dit dès son arrivée d'ailleurs que c'était beaucoup et qu'elle ne voulait pas aller au-delà. Alors que pendant longtemps, on s'est dit, oh ben, ce serait bien 10 millions, 11 millions, 12 millions, et vive le tourisme et vive le surtourisme. Donc elle était consciente de cette question-là.
D'ailleurs, depuis quelques mois, on évoquait la dégradation du musée en raison du trop grand nombre de visiteurs.
Alors, on l'évoquait aussi parce qu'elle a un grand projet, qui est aussi le projet d'Emmanuel Macron, un projet pharaonique à 800 millions d'euros, hein, qui est notamment de creuser la cour carrée pour y mettre la Joconde et la séparer du reste des collections. Et ça, c'est vraiment un choix, c'est un choix qui a mobilisé beaucoup de ressources au Louvre, beaucoup de personnes, et sans doute, peut-être, y a-t-il eu négligence, et c'est le rapport ensuite d'enquête qui permettra de le montrer.
On reste un peu au Louvre, mais j'aimerais mobiliser votre mémoire. Par le passé, en 1976, lorsque l'épée de Charles X de son sacre avait été dérobée, et jamais retrouvée d'ailleurs, je suis allé dans les archives, et j'ai été frappé d'entendre qu'à l'époque, ce n'est qu'une brève dans les médias, 26 secondes à la télé ou à la radio. Personne, à l'époque, n'avait parlé de symbole du déclin de la France comme aujourd'hui, et ça renvoie à ce qu'on se disait avec Gilles et Natacha tout à l'heure. Les médias avaient donc très peu parlé de l'événement. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui de la culture, aujourd'hui, de voir à quel point le même type d'événement aujourd'hui mobilise une semaine de médias, 3 heures de commission d'enquête de la présidente directrice Laurence Descartes cette semaine devant les sénateurs. Est-ce que ça dit que notre société est ultra polarisée et que la culture est un endroit où la polarisation joue à plein?
Bien sûr, ça m'a fait penser à Notre-Dame, ou à l'incendie de Notre-Dame. Ces émotions collectives extrêmement fortes qui sont internationales, avec le regard du monde sur la France, qui est un regard très critique, il faut bien dire ce qui est. Et... il faut faire la part des choses, je crois, là-dedans. C'est-à-dire que, évidemment, on aime les catastrophes. Il y a de cela dans les médias, sans doute. Après, c'est une vraie catastrophe, quand même. Alors, c'est une moindre catastrophe, évidemment, que ce qui s'est passé à Notre-Dame. Mais ça dit quelque chose, quand même, de, effectivement, l'importance de la culture, de ce qu'elle représente, et dans notre pays, tout particulièrement. Regardez, alors je vais prendre ma casquette d'économiste, le budget de la culture, c'est très peu, hein, dans le budget de la nation, mais elle est présente tout le temps dans le débat national. Et c'est vrai qu'autour des questions culturelles se jouent, bien entendu, des questions politiques.
Allez, on en vient à votre livre, et permettez-moi de parler, je fais rarement de moi, je suis personnellement abonné à des plateformes que j'utilise parfois très peu, notamment parce que j'ai laissé passer parfois la date de fin d'essai gratuit. On est au cœur de votre livre, cette négligence que partagent peut-être certains autour de la table et peut-être certains de nos auditeurs, mais à vous lire, on n'est pas si nombreux, pas si peu que ça à partager cela. C'est ce que vous avez voulu mesurer. Est-ce que c'est un nouveau champ de l'économie, de la culture, ça, la négligence ?
De la culture, pas seulement, c'est un champ de l'économie, et je dirais de la vie quotidienne de tout le monde. C'est assez frappant quand nous évoquons avec Maya Bakash-Bovalet ce livre. C'est vrai que tout le monde voit ce dont on parle. Et d'ailleurs, nous sommes partis justement de cette question des plateformes. Oui. Et nous travaillons toutes les deux donc sur les plateformes, sur la culture, etc. Et en discutant, nous sommes dit, mais le nombre de gens, y compris nous, qui sont abonnés à des plateformes, qui n'utilisent plus l'abonnement et qui négligent de se désabonner, très important. Et puis, ça existe dans la vie réelle. Ce sont les salles de sport, etc. Et donc, ce qui est très, très frappant aussi, c'est qu'on parle très peu de la négligence. On a commencé à faire des recherches. Et dans le monde académique, par exemple, c'est tout à fait négligé.
On a négligé la négligence. Voilà. Gilles.
C'est drôle, j'avais commencé à lire votre essai avant de savoir que vous étiez notre invité, et j'avais été notamment interpellé par le sous-titre. Oui. Économie de l'inattention, parce qu'on parle beaucoup de l'économie de l'attention, et je dis tiens, qu'est-ce qu'elles veulent dire avec l'économie de l'inattention, et ça couvre beaucoup de choses. Et sur la question du patrimoine, je lis juste un extrait, c'est page 132. Il y a aussi le sourd effet des négligences qui, mises bout à bout comme autant de micro-incidents ou de brefs moments d'inattention, induisent des détériorations irréversibles. Tout ça fait évidemment écho à l'actualité devant laquelle nous trouvons. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous dressez une typologie des négligences et une typologie des causes de ces négligences. Et est-ce que vous pouvez, de manière synthétique, nous les présenter, parce que vous n'avez pas un regard unilatéral sur ces négligences comme nécessairement des catastrophes.
Françoise Benhamou.
Effectivement, alors on a essayé effectivement de construire cette typologie. Il y a la négligence qu'on a qualifiée de naturelle, c'est l'inattention, c'est la négligence de tous les jours, et dans le fond c'est pas très grave, c'est ce que Georges Perec appelle l'infraordinaire. Il y a une deuxième forme de négligence, c'est la négligence rationnelle, calculée. C'est-à-dire qu'on se dit, qu'est-ce que je vais négliger, au fond. Ça peut être, d'ailleurs, une entreprise qui va choisir ses priorités, ou le Louvre, d'ailleurs, et on peut pas prendre soin de tout, donc on choisit.
Un arbitrage.
Voilà. Et puis, on va un petit peu plus loin dans ce continuum, il y a la négligence coupable. C'est-à-dire, dans les choix que l'on a fait, on a peut-être fait des choix qui sont tout à fait non pertinents, et c'est par exemple le manque de soins ou de maintenance des piles d'un pont qui va s'écrouler à Gênes. Ça peut être toutes sortes d'événements de ce type-là, ça peut être aussi une entreprise qui, de manière tout à fait cynique, calcule le coût des accidents du travail versus le coût de la prévention des accidents du travail, qui va choisir où elle met le curseur, et il y aura peut-être un accident du travail qu'il faudra compenser. Donc, il peut y avoir de la négligence coupable, et il y a enfin, et c'est ça qui nous a aussi intéressés et interpellés en travaillant, on n'était pas parti de là d'ailleurs, de la négligence qu'on a qualifiée de désirable ou créatrice, c'est-à-dire vous négligez quelque chose, et en fait cette négligence va conduire à peut-être faire une découverte, c'est ce qu'on appelle la sérendipité, et ça nous a beaucoup intéressés, parce que ça ouvre des perspectives sur la négligence qui montrent à quel point c'est complexe.
Vous pouvez nous donner un exemple de négligence créatrice?
Bon, alors, peut-être créatrice. Deux exemples. Il y en a un qui est très connu, c'est Fleming qui, négligeant de bien nettoyer son laboratoire, partant en vacances, laisse des champignons, et puis finalement c'est grâce à cela qu'il va découvrir la pénicilline. Et puis un autre, c'est la parabole des crapauds fous.
Très belle, la parabole des crapauds fous.
C'est une très belle parabole, exactement. Alors, au moment de la reproduction, les crapauds prennent, vous avez le troupeau des crapauds, si je puis dire, qui se déplacent, qui migrent, mais il y en a à peu près 10% qui prennent la tangente, qui vont ailleurs. Et puis alors, s'il y a, je ne sais quoi, un accident quelconque, par exemple, je ne sais pas, ça peut être la foudre, les crapauds qui ont tous pris le bon chemin vont être disséminés, et grâce aux 10%, bien l'espèce va pouvoir perdurer.
Éloge de la négligence. Natacha.
Alors, c'est extrêmement intéressant justement d'explorer les différentes causes de la négligence, mais aussi les différentes manières dont ça influe sur notre vie. Mais j'ai essayé en vous lisant de me poser la question, en fait, des raisons pour lesquelles on est négligent, l'égoïsme, la paresse, tout cela, et arrive, puisque vous citez énormément d'études de sciences sociales qui permettent de comprendre les mécanismes, arrive cette question de la morale. Puisque, par exemple, vous citez une expérience sur la consommation d'électricité où on s'aperçoit que quand il y a un jugement moral, les gens vont davantage respecter au départ les règles de mesure, de modération, que quand on les informe simplement, mais qu'il n'y a aucun jugement moral. La question est la suivante. La négligence peut être coupable, vous l'avez dit, quand il s'agit de ne pas faire son travail correctement, quand c'est un manque de conscience professionnelle, et donc quand ça implique les autres. Est-ce que vous estimez que dans des sociétés qui sont des sociétés davantage individualistes, où il y a moins ce rapport au collectif, en fait, autant la négligence à titre individuel pour soi-même, quand on va le payer, par exemple, en payant des abonnements, ça n'est pas grave, mais que quand cette négligence touche l'ensemble, ça révèle en fait notre difficulté à créer un sentiment d'appartenance à une communauté et donc de responsabilité vis-à-vis des autres.
Françoise Benhamou.
Absolument,
Benhamou.
Je crois même que c'est une faille démocratique. C'est-à-dire, on le voit pour l'environnement, c'est assez évident. Hein. C'est-à-dire qu'on peut toujours se dire que l'autre fera ce que nous-mêmes nous ne faisons pas. Mmh. Et en plus, on a des bonnes raisons de le faire en se disant, bah, dans le fond, c'est une question globale et si seule la France ou seulement moi, dans ma vie quotidienne, je fais des efforts, eh bien, ça n'aura aucun effet. Et en fait, c'est là où les négligences individuelles, lorsqu'elles sont additionnées, deviennent une négligence collective. Et cette question nous a beaucoup interpellés, notamment sur l'avenir de la démocratie, parce que nous négligeons la démocratie, nous la négligeons collectivement et nous la négligeons individuellement. Alors, évidemment, ce que l'on peut en dire du collectif et de l'individuel est très différent, mais à travers toutes sortes de micro-abandons, on finit par négliger la démocratie. On est tombé sur un texte, d'ailleurs, de Tocqueville, que je n'avais pas lu de cette manière, mais qui est tout à fait intéressant, et où Tocqueville explique que la tyrannie est possible à travers des toutes petites négligences. Il n'utilise pas le terme négligence, pour être honnête, mais à travers des petits abandons, des petits renoncements, etc. Et au bout du compte, on arrive à une sorte de soft tyrannie, en quelque sorte.
Sommes-nous déresponsabilisés? Est-ce que ça raconte aussi ça, nos négligences?
On arrive tout de suite à la question, bien entendu, de la responsabilité qui est partout. On est déresponsabilisé à travers toutes sortes de choses. Par exemple, nous évoquons la fatigue informationnelle qui fait que on a tellement de messages que du coup on fuit les messages ou on va au plus simple. Et de ce fait, évidemment, on oublie de s'intéresser à ce qui est important.
Il y a donc un paradoxe, ou en tout cas un lien, c'est que c'est l'économie de l'attention qui produit l'économie de l'inattention.
Ce sont les deux faces d'une même pièce, en quelque sorte. Et l'attention, si je puis dire, a été focalisée sur l'économie de l'attention. Oui. Il nous a semblé que l'inattention avait été un peu sous-estimée dans l'affaire, et que, par exemple, pour revenir à votre première question, les plateformes jouent beaucoup, à la fois pour capturer en quelque sorte notre attention, mais aussi notre inattention. Nous ne nous désabonnons pas, nous abandonnons notre jugement au profit de ce que nous propose la plateforme, etc. Et donc, pour revenir à votre première question, vous parliez du coût.
Oui.
Et par exemple, on vient d'apprendre que Amazon a dealé, si je puis dire, a accepté de payer 2,5 milliards de dollars aux États-Unis. Parce que c'est la FTC qui l'a poursuivie, c'est-à-dire l'autorité de la concurrence. Et pourquoi? Parce qu'elle incitait les gens à s'abonner à Prime, ce qui permet d'être livré plus vite, etc. Mais une fois que vous étiez abonné, enfin d'ailleurs vous n'étiez pas vraiment abonné, c'était pour un mois gratuit, ensuite oui. vous pouviez vous désabonner, fait c'était tellement compliqué de se désabonner que les gens ne le faisaient pas. Et donc, à ce titre, simplement 2,5 milliards de dollars. C'est dire quand même ce que gagnent les plateformes aussi à jouer sur la négligence.
On ne l'a pas mesuré ça globalement encore ?
Alors globalement, la négligence, c'est dans toutes sortes de domaines, il faudrait les additionner, oui. ça n'aurait pas grand sens. Oui. C'est-à-dire, il y a la négligence. Quand vous prenez la négligence environnementale, c'est dans le très long terme,
sûr.
Etc.
Bien sûr.
Sur les plateformes, ça va être cela. Alors il y a quelques travaux aux États-Unis sur l'économie qu'ils ont appelé de l'étourderie. Et d'ailleurs, il y a même une société qui s'est créée pour aider les gens à se désabonner. Et alors, on s'abonne à la société de désabonnement.
Qu'en pense l'étourdi, Gilles Finkelstein? Parce qu'il est un peu étourdi.
Alors, vous venez d'évoquer des effets individuels de le non-désabonnement qu'on a, je pense, beaucoup d'auditeurs, et moi-même, avons parfois vécu. Vous avez évoqué une dimension plus commerciale avec Prime. Je voudrais revenir sur une dimension vraiment collective. Vous avez parlé du climat, mais pour revenir à la culture, lorsqu'il y a une négligence, une série de négligences, que ça conduit à des incidents, parfois à des drames, quels effets cela produit ? Parce que vous avez tout à l'heure cité Notre-Dame, mais vous en parlez dans votre essai, et vous dites, comme dans notre domaine, souvent ça produit une prise de conscience des dangers générés par la négligence, qui conduit à prendre dans l'urgence les mesures qui auraient dû s'imposer bien auparavant. Et puisque vous êtes économiste et que le sous-titre c'est « économie de l'inattention », à la fin, est-ce que c'est un problème de réagir dans l'urgence ou est-ce que... ou pas ?
Si vous prenez l'exemple de la culture, c'est particulièrement important de réagir avant plutôt que dans l'urgence, parce qu'il y a quelque chose d'irréversible dans les dégâts de la négligence. Alors, c'est pas toujours irréversible, mais ça l'est souvent. Les œuvres qui ont disparu du Louvre, on va peut-être les retrouver, on va peut-être les retrouver en petits morceaux. Donc, où vous prenez le surtourisme, pour rester dans la culture, le surtourisme qui doit beaucoup au patrimoine, mais qui est aussi qui détériore beaucoup le patrimoine. Alors ça peut être les petites choses, les papiers jetés par terre, ça c'est pas grave, on les ramasse. Enfin, il y a un coût. Là encore, mais on peut le faire, mais ça peut être des détériorations beaucoup plus importantes. Et par exemple, à Versailles, ce sont les parquets qu'il faut refaire. Et regardez ce qui se passe, par exemple, à Barcelone. C'est à la fois culturel et au-delà de la culture, mais c'est vrai qu'il y a un tel surtourisme aujourd'hui qu'il y a que la population est vent debout contre le tourisme, alors qu'elle y gagne aussi quelque chose, mais elle y perd beaucoup. Le quartier central, le Barrio Gótico, se vide de ses habitants. On entend à longueur de journée des valises roulantes, etc. Et c'est ce qu'on voit aussi à Paris, par exemple, dans le quartier du Marais. Donc ces questions-là, elles peuvent induire des détériorations définitives.
Natacha.
Alors, le texte de Tocqueville que vous citez, qui est un texte absolument fascinant, évoque systématiquement chez moi ce que j'estime être son pendant, qui est en fait le texte de Thucydide sur le discours aux morts de Périclès, dans lequel il parle de la démocratie, et il a cette phrase qui est magistrale, « Nous sommes les seuls à penser qu'un homme ne se mêlant pas de politique mérite de passer non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile. » C'est-à-dire que la démocratie nécessite d'abandonner sa négligence. Et j'y ai pensé d'autant plus fort en vous lisant qu'il y a un passage que je trouve extrêmement intéressant, puisque vous parlez beaucoup des politiques du nudge, qui permettent justement de travailler sur, de prendre acte de la négligence des gens, mais de les conduire à avoir des comportements qu'ils voudraient sans doute avoir, hein, qui sont des comportements positif, mais de les y conduire tout doucement. Et à un moment donné, vous écrivez « La force de cette approche des politiques publiques, celle du nudge, est de prendre la pleine mesure de nos comportements négligents. Il ne s'agit pas de lancer des campagnes d'information ou d'améliorer le niveau d'éducation pour que les gens deviennent plus autonomes, comme c'était le cas dans les politiques d'éducation au XIXe siècle en France, qui fondaient la démocratie et le libre choix sur la formation des citoyens. » Est-ce que, finalement, nous ne sommes pas en acceptant la négligence et en se disant on va essayer de faire avec, en train d'abandonner ce qui était le projet des Lumières, le citoyen autonome et responsable, qui va justement utiliser sa raison pour déterminer les conséquences de ses choix. C'est un abandon, c'est problématique, ou c'est parce qu'on a conscience que la nature humaine est telle? Mais dans ces cas-là, comment croire encore en la démocratie et en les Lumières?
Françoise Benhamou.
C'est extrêmement grave hein, pour moi. Oui. C'est-à-dire que nous évoquons justement la négligence des savoirs, d'abord, qui s'installe beaucoup et sous diverses formes. Par exemple, on est de plus en plus sensible à faire des savoirs professionnalisants, ce qui est une bonne chose, ça permet aux gens de rentrer sur le marché du travail. Mais très souvent, ça se fait au détriment, je dirais, de la formation de l'honnête homme. Et il faudrait faire les deux choses à la fois, c'est-à-dire que les gens aient encore le sens de l'histoire, le sens de ce que Hannah Arendt appelle les trésors perdus. On est en train de perdre ces trésors qui sont ceux de l'expérience passée. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, il y a cet aspect-là qui est absolument essentiel. Et on s'endort, on s'assoupit là-dedans. Alors, les politiques du nudge par rapport à tout cela, c'est à la fois, quelquefois, un peu des gadgets. Ça peut apparaître comme des gadgets. Hein. Ça consiste à essayer d'inciter les gens, à travers des toutes petites choses, à faire ce qu'ils devraient faire, en supposant que c'est la bonne chose. Hein. Il y a un côté très paternaliste là-dedans. Mais par exemple, pour prendre un exemple tout bête, on va mettre des notes de piano sur les escaliers pour les inciter à les prendre, plutôt que d'aller prendre un ascenseur. Bon, des petites choses comme ça. Donc, ça, c'est peut-être pas inintéressant, c'est pas ça qui sauvera la démocratie. Ça, c'est clair. Mais ça peut aider sur un certain nombre de sujets à infléchir les comportements, à lutter contre ce que la théorie économique appelle des biais de comportement, ouais, les biais de surconfiance, où on a tellement confiance en soi que dans le fond, on ne fait pas attention aux choses et on ne fait pas attention à l'avenir.
Il y a une question justement d'avenir et de terme. Vous racontez que tout cela raconte nos négligences, raconte aussi que l'on privilégie le court terme au détriment du long terme. Est-ce que c'est aussi privilégier le plaisir immédiat au détriment du bonheur? Allons-y, clairement.
Alors, c'est absolument central hein, dans le travail qu'on a fait, c'est le rapport entre la négligence et le temps. Ça peut prendre la forme de la procrastination. C'est Proust qui évoquait l'ajournement perpétuel. Voilà. Mais c'est vrai que ce rapport au temps est fondamental. Par exemple, ça peut être par rapport à la retraite. On met pas d'argent de côté. Pourquoi les systèmes par répartition sont importants? D'abord parce qu'ils ont quelque chose à voir avec la démocratie, mais aussi parce que nos tendances naturelles seraient la fable de la cigale et de la fourmi, hein, c'est-à-dire à prendre plaisir et à mettre très tardivement un peu d'argent de côté pour la retraite. Ça implique tout un changement culturel. Ça peut exister, mais enfin bon, voilà. Et ce rapport au temps, on va le trouver dans plein domaines de la vie, et cet ajournement, il va nous conduire effectivement à négliger beaucoup d'aspects pourtant bien importants de la vie. C'est ce qu'on a appelé aussi l'effet James Dean, c'est-à-dire on est centré sur l'idée d'une vie certes courte mais formidablement pleine de plaisir, et on oublie que la vie est peut-être longue et qu'il y a de grands plaisirs aussi dans la vie. Et d'ailleurs, peut-être que la vie longue et avec des plaisirs plus répartis tout au long de la vie nous apporte plus que cette idée d'une vie courte et éclatante.
Gilles, une dernière question.
Sur ce rapport au temps, vous relatez l'exemple que cite Irving Fisher il y a presque un siècle, mais qui est, je trouve, une très bonne illustration de ce rapport au temps, qui est de ce fermier dont le toit de la maison fuit et qui, les jours où il pleut, évidemment, ne peut pas aller réparer le toit, et les jours où il ne pleut pas, n'a pas besoin de le réparer. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, chaque décision est rationnelle. C'est rationnel le jour où il pleut, et c'est rationnel le jour où il ne pleut pas. Mais c'est irrationnel parce qu'il y a ce problème du rapport au temps et que la maison finit par s'écrouler.
C'est exactement ce qu'on appelle des biais de comportement. Là-dessus, il y a d'ailleurs une littérature économique tout à fait intéressante hein, qui a été mise en avant et qui permet de rompre un peu avec cette idée d'un homo economicus rationnel. Voilà, c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'une petite décision rationnelle qui semble rationnelle le premier jour, puis le deuxième jour, puis le troisième jour, etc., revient à abandonner des choses essentielles ou moins essentielles, mais qu'il faut faire. Hein, je ferai mon ménage demain, non après-demain, ou je commence mon régime demain, oh, puis non, un dernier pain au chocolat.
Est-ce que parfois vous êtes négligente, vous?
Bien sûr, comme tout le monde.
Votre dernière négligence, c'était quoi?
Alors, je crains que ce soit justement, non pas un pain au chocolat, mais un flan.
Merci beaucoup, Françoise Benhamou. J'adore les flans aussi. Merci aussi pour votre livre « Négligence, une économie de l'inattention » signé avec votre consoeur Maya Bakash Beauvallet aux éditions Kalman-Lévy. C'était vraiment génial de vous avoir et de vous écouter sur un sujet qui nous concerne tous, mais on n'avait pas forcément mis des mots et des concepts dessus. C'est aussi l'intérêt de vous recevoir dans le Grand Face à Face. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à Gilles et merci à Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face. Mathilde Clatte à la préparation de l'émission. Marie Merrier à la réalisation. Aujourd'hui, Raphaël Rousseau à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour le podcast France-Algérie, anatomie d'une déchirure avec l'historien Benjamin Stora. Une conversation que vous pouvez déjà écouter en podcast sur l'appli Radio France.